Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 23 février 2026. Je suppose que durant ce week-end, vous avez entendu parler des nouveaux tarifs de Trump et de la claque qu'il s'est prise par la Cour suprême. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas trop qui va sortir vainqueur de ce concours d'égo surdimensionné que les Américains sont en train d'organiser. Une chose semble plutôt certaine, c'est que le commun des mortels ne va pas y gagner grand-chose et que les partenaires commerciaux des États-Unis vont commencer sérieusement à se demander si l'establishment américain n'est pas complètement taré. S'il y avait encore un doute. Finalement, la bonne nouvelle du week-end, c'est que Trump n'a pas attaqué l'Iran pour faire diversion. On va donc essayer de reprendre la chose depuis le début, mais on va pas trop se compliquer la vie, parce que, pour ceux qui n'ont pas vu ce week-end, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'histoire, et c'est presque plus simple d'aller la regarder pour tout comprendre. Le lien est ici, et c'est sur la chaîne Swissquote. Mais en attendant, même si beaucoup de choses ont été dites durant le week-end, les marchés entament la semaine dans le rouge par manque de clarté. À 5h30 du matin, les futurs sont en baisse de 0,7% à New York. Et pour être franc, si on déteste l'incertitude avec ce que la Cour suprême a fait vendredi, on va être servi. Et je ne sais même pas quand ni comment on va s'en sortir. Heureusement que les marchés et les intervenants ont une capacité d'attention inférieure à un Golden Retriever face à un bol de croquettes, sinon ça aurait été pénible. Quoi qu'il arrive, rassurez-vous, on aura tout oublié mercredi soir parce qu'il y a les publications trimestrielles de Nvidia. En attendant, on va faire le point sur ce qu'on sait au niveau des tarifs et je vais essayer de faire court parce que pour être franc avec vous, il faut quand même bien admettre que le sujet est super chiant. Donc, pour faire simple, on avait demandé à la Cour suprême des États-Unis de juger les tarifs de Trump mis en place sous l'égide de la loi IEEPA, International Emergency Economic Power Act, l'IEEPA. C'est la loi qui permet au président des États-Unis de faire ce qu'il veut, ou presque, sur le plan économique quand il déclare une urgence nationale. Il peut donc bloquer des avoirs étrangers, interdire des transactions financières, sanctionner des entreprises ou des pays, restreindre le commerce, geler des actifs aux États-Unis. En gros, c'est le super pouvoir de Trump. Spider-Man, il peut grimper au mur et lancer des toiles. Et Superman, il peut voler, il est super fort tant que tu lui lances pas un morceau de kryptonite au visage. Batman, il est très riche. Et Trump, il peut utiliser l'IEEPA à condition qu'il déclare une menace inhabituelle et extraordinaire venant de l'étranger. Mais vous noterez que dans la liste ci-dessus, il n'est nulle part mentionné que Trump peut coller des taxes douanières au monde entier en invoquant l'IEEPA. Et c'est là-dessus que la Cour suprême a tiqué. Mais et c'est important, il faut retenir une chose, c'est que la Cour suprême n'a pas dit au président que les taxes, c'était péché et qu'il fallait pas le faire. Elle a dit qu'on ne pouvait pas invoquer l'IEEPA pour les tarifs douaniers. Donc, il faut trouver autre chose. Et il y a autre chose. Il y a la section 232 qui touche la sécurité nationale, la section 301 qui touche aux pratiques commerciales déloyales et la section 122 qui touche aux mesures d'urgence sur la balance commerciale. Du coup, Trump a pioché dans la section 122 et il a collé d'office 10% de tarifs au monde entier. Et puis 12 heures plus tard, comme il était toujours énervé, il a rajouté 5% de plus. Le problème que l'on doit résoudre dorénavant, c'est de savoir si on va se retrouver avec les taxes de base considérées comme illégales, si elles ont été mises en place sous l'IEEPA, et en plus, les nouvelles taxes de 15% sous la section 122. Et visiblement, c'est le scénario à privilégier dans un premier temps. Oui, parce que bien sûr, c'est plus simple de mettre en place des taxes, même illégales, que de les supprimer. Tu comprends, c'est quand même à cause de l'argent. D'ailleurs, ce week-end, l'Europe s'est empressée d'envoyer un mail à la Maison-Blanche pour savoir s'il comptait bien honorer les accords déjà signés. Et c'est symptomatique. Les gars ne demandent pas le remboursement de quoi que ce soit. Ils savent que ça prendra des lustres. Non, ils veulent juste des certitudes comme quoi ça n'ira pas plus haut que les 15% de base. On s'en fout que ce soit sous l'égide de l'IEEPA ou de la section 122. On veut juste pas payer les deux et monter direct à 30%. Et ça, pour l'instant, c'est pas clair du tout. Alors moi, j'ai une pensée pour les douaniers qui vont devoir taxer les marchandises qui vont rentrer aux États-Unis à partir d'aujourd'hui, hein, parce que ça va devenir vachement complexe comme job. Je pense d'ailleurs que Trump lui-même n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les jours à venir. L'avantage, c'est que lui, au moins, il peut faire diversion en bombardant l'Iran. En attendant, les bourses mondiales vont devoir commencer la semaine dans un truc qu'ils détestent, l'incertitude. Et le pire, c'est que quand on creuse un peu plus loin que la première page du premier journal gratuit qui vient, on se rend compte que le truc devient de plus en plus complexe et que défaire ce sac de nœuds mouillés va prendre un paquet de temps. Il va donc falloir vivre avec l'incertitude pendant un moment. Mais bon, là encore, notre capacité à passer à autre chose à la vitesse de la lumière devrait nous aider à surmonter cette mini-crise qui ne devrait être qu'une nouvelle opportunité d'acheter sur faiblesse. Et puis alors, Au milieu de cette saison 3 des tarifs douaniers, il y a une question qui se pose, c'est la question du remboursement. Oui, parce que si les tarifs déjà encaissés étaient illégaux, normalement, dans un monde normal, les USA devraient rembourser ceux qui ont déjà payé des taxes. Bon, je vous préviens, hein, si vous avez été victime de ces taxations illégales et que vous comptez recevoir votre argent dans les 10 ans à venir, faut pas rêver. Tout d'abord, vu la tronche du déficit US, l'argent est dépensé depuis longtemps. Et comme pour chaque remboursement, il va falloir engager un cabinet d'avocats très très cher, je ne suis pas certain que ça serve à quelque chose. En tous les cas, dans le cas qui nous occupe, le remboursement n'est clairement pas la priorité. La première question est de savoir si en Europe, on va se retrouver avec 30% de taxes douanières ou est-ce que Trump va nous faire un rabais et qu'on aura la chance de rester à 15%. Pour l'instant, le doute et l'interrogation en sont à ce niveau. Et c'est pour ça que ça baisse ce matin, histoire de créer un dip pour pouvoir bailler derrière. La semaine commence donc au milieu de nulle part avec une avalanche de questions que l'on peut se poser, sauf qu'on n'est pas vraiment certain de pouvoir obtenir les réponses dans les jours à venir. Le Japon est fermé, la Chine est fermée et New York est en état d'urgence à cause d'une tempête de neige et il est interdit de circuler si ce n'est pas indispensable. Autant vous dire que ça ne va pas être la folie au niveau volume. Ou alors ce sera télétravail pour tout le monde. Pour le moment, Hong Kong remonte parce qu'ils ont baissé la semaine dernière. Séoul grimpe parce que encore et toujours, on parle de deal entre Samsung et Nvidia. Le baril de pétrole version WTI est toujours sous tension, mais légèrement sous les 66. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles du côté de l'Iran. Ceux qui pensaient à un coup sûr que ça allait péter ce week-end ont dû se planter dans leurs calculs. Mais il paraît qu'ils vont remettre une couche de négociation à Genève ce jeudi. Ça va sûrement bien fonctionner vu qu'ils ne sont d'accord sur rien et qu'ils se haïssent depuis 50 ans et que ça va pas se régler en 3 jours, même s'il y a du chocolat suisse sur la table. Autrement, l'or est à 5180, vous connaissez la chanson « Valeur refuge, blablabla ». Et le bitcoin se fait démolir parce que vous connaissez aussi la chanson « Pas valeur refuge, mais mesure de l'incertitude ». Le bitcoin est à 65 000 et des poussières. La semaine commence donc dans le doute et l'incertitude. Et pour être franc, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, mis à part le sketch de la Cour suprême versus Donald Trump. On a même arrêté de parler du PIB de vendredi, qui était absolument merdique, mais que c'était pas grave parce que c'est toute la faute du shutdown et que ça ira mieux la prochaine fois. Et on ne parle pas non plus du PCE, qui est moins faiblard que le CPI pouvait le laisser penser, comme quoi on n'est pas tous égaux devant les chiffres économiques. Mais par contre, il y a un truc qui est en train de trier dans un coin qui commence à faire un peu trop parler de lui, même au milieu du concours d'ego à Washington, c'est l'affaire Blue Hole. Oui, parce qu'on en a peu parlé, mais des boîtes comme Blackstone, Apollo, Ares ou KKR ont pris cher à cause de l'un de leurs concurrents, Blue Hole. Oui, parce que derrière tout ça, il y a un mot qui commence à faire transpirer tout le monde, le mot « private credit ». Tout est donc parti de Blue Hole. La société a décidé de suspendre les demandes de retrait sur l'un de ses fonds de crédit privé, le Blue Hole Capital Corp 2, un véhicule qui prête à des entreprises américaines de taille moyenne. Et là, panique douce mais réelle, l'action Blue Hole a plongé d'environ 12% sur la semaine et avec elle, tout le secteur en a pris un coup parce que quand un acteur commence à fermer les portes, les investisseurs se demandent immédiatement est-ce un cas isolé ou est-ce le signal qu'il y a un truc qui est en train de partir en vrille ? On en a peu parlé parce qu'on était occupé à autre chose, mais si on regarde un peu la seconde page des médias, et pas la première, eh bien, on voit que, quand même que ça coince quelque part. Le problème, c'est pas juste Blue Hole. Le problème, c'est la mécanique. Le private credit est devenu gigantesque ces 10 dernières années. Les géants du private equity, Blackstone, Apollo, KKR, ont développé des branches entières de prêts directs aux entreprises, contournant les banques traditionnelles. Beaucoup d'opérations de private equity sont désormais financées par ce crédit privé. C'est plus flexible, plus rapide et moins régulé. Et tant que tout va bien, c'est magnifique. Sauf que ces prêts ne sont pas liquides. Ce ne sont pas des actions cotées qu'on revend en deux clics. Ce sont des contrats bilatéraux négociés de gré à gré, souvent complexes, et c'est là que ça coince. Certains de ces prêts sont logés dans des structures appelées BDC, Business Development Companies, qui, elles, sont parfois cotés en bourse et s'échangent tous les jours. Sympa comme paradoxe, des véhicules liquides qui contiennent des actifs illiquides, c'est ce qu'on appelle un liquidity mismatch. Tant que les investisseurs restent calmes, tout va bien, mais s'ils veulent sortir en masse, le gestionnaire doit vendre ses prêts dans un marché où personne n'a envie d'acheter. Résultat, soit on vend à prix cassé, soit on bloque les retraits, ce qu'on appelle « gating », et ça, les investisseurs, ils détestent. De plus, le timing actuel n'aide pas. Les valeurs technologiques, notamment dans le logiciel, ont violemment corrigé, on s'en souvient. Or, beaucoup de fonds de private equity ont prêté massivement à des sociétés de software. Et aujourd'hui, avec l'IA qui redistribue les cartes et menace certains modèles économiques, la question surgit, est-ce que ces entreprises pourront rembourser ? Est-ce que les standards de crédit ont été un peu trop optimistes ces dernières années ? Les ETF exposés au BDC comme le VanEck BDC Income ETF ont déjà perdu plus de 25% sur un an. C'est pas un détail, c'est un signal que la confiance s'effrite. Blue Owl, de son côté, tente de rassurer. La société explique qu'elle ne bloque pas totalement la liquidité, mais qu'elle accélère le retour de capital grâce à une vente d'actifs en redistribuant environ 30% des fonds investisseurs. En gros, on ne ferme pas la porte, on vous rend juste l'argent autrement. Mais le mal est fait. Le doute est installé. Et quand ce doute touche le crédit, ça devient sérieux. Le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, a lui-même évoqué le sujet, rappelant que le crédit privé s'est énormément développé en dehors du système bancaire régulé. Son message est clair. Tant que ça reste en périphérie, ça va. Mais en cas de contamination, on va changer de catégorie. Et quand un secrétaire au Trésor fait subtilement référence à la crise des subprimes d'il y a 20 ans, c'est jamais anodin. Pour l'instant, la majorité des stratégistes restent mesurés. Ils rappellent qu'une vraie crise du crédit nécessite généralement une récession. Les défauts explosent surtout quand l'économie se contracte franchement. Or, même si la croissance américaine ralentit, on l'a vu la semaine dernière, elle reste positive. Donc, pas d'embrasement systémique à ce stade. Mais il y a quand même un malaise latent parce que le private credit est naturellement moins transparent, moins visible, moins compris. Et dans un environnement où les investisseurs commencent déjà à douter des valorisations liées à l'IA, la combinaison bulle potentielle plus crédit opaque n'est pas ce que l'on peut qualifier d'hyper rassurant. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas une crise, c'est une remise en question. Le marché teste la solidité d'un secteur qui a grossi très vite, peut-être trop vite. Et il rappelle une vérité simple, la liquidité est un confort qui disparaît précisément quand on en a le plus besoin. Pour l'instant, on n'en est pas à Lehman Brothers, ça n'est même pas du Bear Stearns, c'est un signal d'alarme, une petite fissure dans un mur qui paraissait parfaitement lisse, donc ça ne grossit pas, ça va. La vraie question qu'on se pose n'est pas est-ce que ça va péter demain, mais plutôt est-ce qu'on a sous-estimé les risques parce que tout montait un peu trop facilement. Et si vous vous demandiez où se trouvent les conséquences de tout ça, regardez CoreWeave. CoreWeave, vendredi dernier, CoreWeave est l'un des visages les plus flamboyants du boom néo-cloud, s'est fait défoncer. Pas parce que l'IA cale, ni parce que Nvidia n'a plus de cash, mais tout simplement parce qu'un financement de 4 milliards pour un gigantesque data center en Pennsylvanie est bloqué et qu'on ne veut plus prêter parce que CoreWeave est noté B+. Et devinez qui est derrière le financement de ces 4 milliards ? Bingo ! C'est Blue Owl ! On dirait que dans la finance aussi, on ne prête qu'aux riches. Et encore, aux riches qui vont bien. Oui, parce que tant que l'argent coule à flot, la machine tourne à plein régime, mais dès que certains prêteurs commencent à hésiter, le marché se crispe. Un data center, c'est pas une appli qu'on pivote en 3 mois. Ce sont des milliards immobilisés, financés à crédit. Et si le crédit devient plus sélectif, va peut-être falloir refermer les bouteilles de champagne. L'IA continue de croître, la demande explose, mais le vrai baromètre, désormais, ce n'est plus seulement Nvidia, c'est peut-être tout simplement le marché de la dette. Côté chiffres, aujourd'hui, il y aura le PPI en Suisse, l'IFO en Allemagne et le nombre de mètres de neige devant le bâtiment de Goldman Sachs à New York. Pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,7% et j'ai déjà mal au crâne à force de parler des tarifs douaniers. Passez une belle journée et on se voit demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles supputations sur l'avenir des tarifs de Trump. Allez, à demain.